commenté par Actualité. Bonjour à toutes et à tous. Les paractualités du 7 septembre 2016 sur Canal M. Aujourd'hui, à l'émission, l'actualité du jour, la consultation Canada accessible, appel à candidature pour le Forum national des jeunes à Montréal, un autre forum, le Forum de l'économie sociale. Au Saguenay, une chaîne de travail adaptée célèbre ses 35 ans. Je m'entretiens avec Bernard Anger, directeur de cette entreprise. En région, encore, l'Envol fête ses 20 ans. Et puis, une belle histoire pour une jeune malade attachée à un raton laveur. Ailleurs au pays, la 26e grande randonnée Parkinson à Toronto. L'organisme du jour sur Canal M, c'est l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. Je vais accueillir son directeur Marc Saint-Onge et nous finirons par quelques mots d'actualité culturelle et sportive à quelques heures de l'ouverture des Jeux paralympiques. Alors, il en a été beaucoup question avec Benoît Racette et ses invités hier, alors que s'ouvrait la nouvelle saison d'accès libre, ce forum national, cette consultation Canada accessible. Et hier, en fin d'émission, nous étions un petit peu bousculés. J'ai manqué de temps pour vous faire savoir que cet automne, la ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Carla Caltro, sera l'hôte d'un forum national d'une journée. Une journée s'adressant aux jeunes qui sont handicapés et ceux qui ont une expérience vécue, professionnelle ou scolaire, dans un domaine lié à l'incapacité. Cet événement s'inscrit dans le processus de consultation du gouvernement du Canada visant à améliorer l'élaboration d'une loi prévue sur l'accessibilité. Et là, c'est votre occasion. C'est votre occasion de vous joindre à d'autres jeunes de partout au pays et de partager vos idées afin d'améliorer l'inaccessibilité et l'inclusion des personnes handicapées au Canada. C'est aussi pour vous l'occasion de mettre en valeur ce que vous avez accompli pour éliminer les obstacles pour les personnes handicapées. Et puis, c'est l'occasion d'inspirer d'autres jeunes à faire preuve de leadership afin de promouvoir la participation de tous les Canadiens à la société, y compris les personnes handicapées. Le forum aura lieu au mois de novembre 2016 à Ottawa, en Ontario. La date et le lieu du forum seront confirmés avec les candidats choisis. Les frais de voyage et d'hébergement des participants sélectionnés seront payés conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor du Canada. Alors, pour participer, vous devez avoir entre 15 et 30 ans, vous devez être résident du Canada, vous devez être une personne handicapée, bien sûr, ou avoir une expérience vécue professionnelle ou scolaire liée à l'incapacité et à l'accessibilité. Et puis, vous devez pouvoir démontrer comment vous avez fait preuve de leadership ou d'engagement dans un domaine lié à l'incapacité et à l'accessibilité dans votre collectivité, votre région ou encore à l'échelle nationale. Alors, pour plus d'informations, allez donc sur le site Forum National texte. Et puis là, vous allez trouver, parce que si vous saviez, c'est un titre vraiment très, très long et de toute façon, vous allez me perdre. Alors, si vous allez sur le site du Forum National, il vous sera beaucoup plus facile d'avoir toutes les informations et bien évidemment de vous inscrire. Rapidement, d'un forum à l'autre, à Montréal, en ce moment, se tient, ça a commencé aujourd'hui même, ça va se dérouler jusqu'au 9 septembre 2016, le Forum mondial de l'économie sociale 2016, qu'on appelle aussi le GSEF. Le sous-titre cette année, le point sur lequel on souhaite vraiment s'arrêter et penser et trouver des solutions, c'est « Bâtir son quartier et l'habitation communautaire québécoise ». Et je dois dire que cela inspire la communauté internationale. On nous dit ici que le modèle québécois du logement communautaire est unique. Et le GSEF 2016, le grand rendez-vous international des acteurs de l'économie sociale, ne manquera pas de le souligner dans ses différentes activités dédiées au thème de l'habitation. Bâtir son quartier, l'un des leaders de l'habitation communautaire dans la province et la métropole, interviendra dans le cadre de cet événement qui devrait rassembler plus de 2000 participants. La présence en sol québécois de citoyens et citoyennes du monde entier au GSEF 2016 est une excellente occasion de souligner à quel point les accomplissements du mouvement L'habitation communautaire constituent une richesse inouïe. Cet important secteur de l'économie sociale regroupe dans la province 30 000 logements en coopérative et plus de 50 000 logements gérés par des organismes à but non lucratif. Et au total, ce sont plus de 80 000 ménages à faible et moyen revenu qui sont concernés aujourd'hui, dont bien évidemment des personnes souffrant d'un handicap quelconque. Et quand je dis quelconque, c'est bien dans le sens de divers et non pas quelconque dans le sens de qui n'a aucune importance, bien évidemment. On se demande aujourd'hui quelle est exactement cette initiative qui souligne ses 35 ans, la chaîne de travail adaptée. Depuis 1981, une entreprise unique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la chaîne de travail adaptée, la CTA, a permis à plus de 500 personnes ayant une limitation physique ou psychologique de trouver du travail. Bien évidemment, ici, c'est le genre de sujet qui nous intéresse à l'émission Les Paractualités. J'ai au bout du fil Bernard Anger, le directeur général de l'entreprise Chaîne de travail adaptée. Bonjour, Monsieur Anger.
Bonjour, Madame Say.
Vous allez bien?
Absolument, très bien, oui.
C'est fantastique, ça. Je voudrais que vous nous disiez exactement qu'est-ce que c'est que la chaîne de travail adaptée.
Donc, la chaîne de travail adaptée est une entreprise adaptée qui a la mission première est l'intégration au travail des personnes vivant des limitations. Et c'est bien sûr dans l'ensemble, à peu près dans l'ensemble de nos emplois, c'est des emplois permanents. Okay. C'est une des raisons pourquoi, qu'à 35 ans de vie d'entreprise, nous avons souligné, entre autres, pour 11 personnes vivant de limitation, mm-hmm. que des gens qui ont travaillé plus de 30 ans chez nous.
Fait c'est fantastique.
De 35 à 32 environ. Là.
Ah, mais donc, dites-moi, l'idée vous est venue comment, monsieur Anger?
L'idée ne vient pas de moi parce que moi, ça fait 31 ans que je suis à la direction, je suis à l'emploi de la CTA.
Oui.
La CTA existe depuis 35 ans. C'est monsieur Martin Bellé qui, à ce moment-là, travaillait pour le centre de réadaptation CEDAP Lac-Saint-Jean, qui a eu l'idée de démarrer cette entreprise avec trois autres hommes d'affaires pour former un organisme sans but lucratif pour justement permettre à ces gens-là d'avoir un emploi permanent.
Alors, quel type d'emploi?
C'est des emplois, nous, chez nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, notre entreprise, on travaille beaucoup en entretien ménager, buanderie commerciale, entretien ménager commercial et institutionnel, mm-hmm. buanderie commerciale, location et entretien de carpettes, entretien ménager oui. de nos carpettes de tapis d'entrée, lavage de vitres, là, on fait le résidentiel et commercial. On a également la location de main-d'œuvre et nous avons trois ateliers de bois.
Ah oui, aussi.
Trois ateliers de bois, dont un atelier, on fabrique des casiers à vin, fait l'assemblage mmh. des casiers à vin. Pour un autre atelier à Roberval, c'est plutôt les piquets d'arpentage et les balises de motoneige et de VTT.
D'accord.
Et à Alma, l'atelier des bénisteries, on fabrique des jouets d'enfants en bois.
OK, d'accord. Et dites-moi, quelles sont les limitations que l'on retrouve? Est-ce que vous accueillez absolument toute forme de personnes handicapées ou est-ce qu'à un moment donné, vous êtes obligé malheureusement de refuser du monde ou est-ce que vous accueillez tout le monde?
Je vous dis que c'est assez rare qu'on refuse des gens. Par contre, la particularité de notre entreprise, mais j'aimerais aussi, parce que vous direz à la radio, que nous, on est la seule entreprise au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais il y en a 50 comme nous dans la province de Québec.
Ah, c'est
donc,
bien.
On n'est pas seul.
C'est ça.
Puis dans l'ensemble de ces 50 ouais. entreprises, on a à peu près 5000 emplois, dont 3800, c'est des personnes vivant avec des limitations. Par contre, pour le comité, moi-même, mm-hmm. directeur général, je ne contrôle pas l'entrée ni la sortie de ces gens-là, des personnes vivant avec des limitations. Mm-hmm. C'est un comité tripartite, c'est-à-dire une personne d'Emploi Québec qui est ceux qui subventionnent en partie... les entreprises adaptées
oui,
dans la province,
oui.
avec une personne de CEMO et moi-même du CTA. On analyse la candidature, les candidatures qui nous sont présentées par le service externe de main-d'œuvre pour voir si ces personnes-là correspondent à notre programme. En général, je vous dirais que à 98-99%, c'est accepté. Mais il y a quelques exceptions de temps en temps là, que ça ne peut pas faire pour toutes sortes de raisons.
D'accord.
Et c'est pour ça que vous disiez d'entrée de jeu tout à l'heure qu'on a à peu près dans 35 ans permis à environ 500 personnes de passer par la chaîne de travail adapté. Actuellement, on en embauche environ 120, mais j'en ai très près d'à peu près 500 là, qui ont gravité autour de l'entreprise depuis 35 ans, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé ici 3 ans, 5 ans, 10
oui,
ans,
c'est
4
ça.
Ans, tout ça.
Bon. Et dites-moi, pour ceux qui nous écouteraient en ce moment et qui seraient intéressés autant à Alma, où est située cette chaîne, mais comme dans n'importe laquelle, puisque vous nous avez dit très gentiment qu'il y en avait une cinquantaine d'autres au Québec, on s'y prend comment?
Moi, je vous dirais qu'idéalement, c'est qu'avec le service d'emploi Québec, vont vous un peu partout dans la province, vont vous informer à quel endroit il y a des entreprises comme la nôtre, entreprises adaptées. Il n'y en a pas partout nécessairement, mais il y en a quand même dans plusieurs régions de la province de Québec. Donc, avec Emploi Québec ou bien le service externe de main-d'œuvre qui s'occupe beaucoup des personnes vivant avec des limitations, vont certainement vous donner toutes les informations. Chez nous, il y en a quatre. Il doit en avoir à peu près 4 ou 5 services externes de main-d'œuvre qui s'occupent de notre entreprise parce que moi, quand j'ai des services à donner à Saint-Félicien, j'engage du monde de Saint-Félicien. Oui. J'ai des services à la baie, j'engage du monde de la baie. Donc, ce n'est pas des gens d'Alma qui voyagent partout. Là.
Non, non, je comprends.
J'engage selon les besoins de l'entreprise aux endroits bien spécifiques.
Écoutez, c'est vraiment, en tout cas, une chose fantastique. Et moi, voyez-vous, je savais qu'il y en avait, mais 50, j'ignorais. Et ma foi, bien, je trouve que c'est une chose absolument extraordinaire et qui permet en plus non seulement de faire des expériences différentes. Là, je lisais dans un papier qui est sorti dans un journal du Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'il y a une jeune femme, entre autres, qui s'est retrouvée étalagiste.
Oui, absolument. Hein? Parce que nous, on fait de la location de main-d'œuvre dans
ça.
Les entreprises. Donc, cette personne-là, tout est payé par nous et tout ça. On loue ses services dans une entreprise privée. C'est, à ce moment-là, on parle de Joanne pour l'entreprise de Métro Dubé à Alma.
D'accord.
Et cette personne-là travaille chez Métro Dubé comme étalagiste depuis 13-14 ans, je pense, là, en location de main-d'œuvre. Donc, c'est une personne qui a un emploi rémunérateur intéressant, valorisant. Et tout ça, puis Joanne en a fait la démonstration à la télévision comme de quoi qu'elle était très heureuse d'être chez nous. Puis Joanne en est une que ça doit faire tout près de 35 ans qu'elle est à la chaîne de travail adapté.
C'est fantastique. Bernard Anger, directeur général de l'entreprise Chaîne de travail adapté, la CTA, qui est située, je le rappelle pour les auditeurs, à Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci beaucoup, M. Anger, et belle fin de journée et longue vie encore à la chaîne.
Vous êtes bien gentil, Mme Saïd.
Je vous en prie, Monsieur Anger. Bonne journée. Au revoir.
Bonjour, merci.
En région encore, l'Envol fête ses 20 ans et veut encore grandir. L'année 2016 en sera une de gratitude, écrit Hélène Ruel dans La Nouvelle Union. De gratitude et de partage au centre de stimulation L'Envol, qu'ont créé de toutes pièces il y a 20 ans des mères d'enfants autistes comme Marguerite Bourgeois. Visant toujours à repousser les limites des enfants de 0 à 12 ans ayant des troubles sévères de communication, l'organisme a dû passer et il nourrit encore des projets d'avenir. Il est toujours d'actualité. Parce que l'Envol a l'habitude de partager, il profitera de son anniversaire pour offrir aux parents la possibilité d'une journée de dépistage avec son orthophoniste Catherine Baudouin le 12 novembre. L'orthophoniste présentera aussi un webinaire sur la page Facebook de l'Envol en octobre et en novembre. Et puis encore par Facebook, l'Envol proposera ses top 20 pendant 6 mois, notamment ses jeux éducatifs préférés, ça ce sera pour décembre, ses meilleurs livres en janvier et ses applications éducatives en mars. Alors on fera la fête bien sûr à 2 reprises, le 29 octobre au Carré 150, ça ce sera sur invitation, et le 22 avril prochain lors d'une fête familiale. Madame Bourgeois estime qu'en 20 ans, l'organisme a accueilli quelques 500 familles pour développer toute une panoplie de services et d'activités pour stimuler les enfants et soutenir leurs parents. Elle a rappelé les circonstances de la naissance de l'Envol, démarrée à la suite d'une décision de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca de retirer de son offre de services ceux de longue durée dédiés aux enfants ayant des troubles de développement. Pour nos enfants autistes, nous avions besoin de services à long terme. Durant quelques années, il y a eu un trou de service, a rappelé Madame Bourgeois, le milieu institutionnel n'étant pas prêt à le combler. C'est dans son sous-sol que l'envol est né, avec 5 enfants. Il y a eu des moments de doute, mais aussi d'audace et de dépassement, a commenté Madame Bourgeois, rappelant quelques dates marquantes. Et puis encore en région, une belle histoire, celle d'une jeune fille malade qui va à la rencontre d'animaux qui l'ont attachée, voire rattachée à la vie. La petite gypsy réalise son rêve, nous raconte Geneviève Geoffroy dans le journal Saint-François. Le 17 août, les quelques 2 heures de route qui séparaient la petite gypsy de la réalisation de son rêve n'étaient rien comparativement aux 3 longues années pendant lesquelles elle a dû attendre. C'est avec un sourire contagieux et des étoiles dans les yeux qu'elle est sortie de la voiture d'une bénévole du centre d'observation Nimouche de Saint-Béatrix dans la Naudière, venue la chercher à Valleyfield pour cette journée toute spéciale. Pour la première fois, la petite fille, qui suit religieusement les bêtes à travers des vidéos sur Internet depuis plusieurs années, pouvait toucher un raton laveur de ses propres mains. « Je veux en emmener un chez moi », s'est-elle écriée tout sourire au contact de Luciole, un petit raton laveur aveugle. Depuis longtemps, Kim La Jeunesse, la maman de Gypsy, espérait offrir ce cadeau à sa fille, mais sans voiture, c'était impossible jusqu'à ce qu'une bénévole lève la main et l'offre et s'offre pour le transport. On sait comment ça compte pour elle, commente la bénévole qui s'appelle Isabelle Lamoureux. En 2013, au même moment où les fondateurs du centre d'observation recueillaient Nimous, un raton laveur devenu orphelin parce que sa mère s'était faite frapper sur le bord de la route, Gypsy, elle, commençait une chimiothérapie. Cette petite est atteinte d'une maladie rare et héréditaire, la neurofibromatose, qui affecte la peau et les systèmes nerveux et osseux. Et cette maladie cause des tumeurs bénignes multiples qui peuvent devenir malignes. Et c'est ce qui lui est malheureusement arrivé en 2013 et elle a dû entreprendre des traitements pour empêcher une tumeur de grossir. On estime le nombre de personnes atteintes de neurofibromatose à 100 000 aux États-Unis et à 10 000 au Canada. Chaque année, un bébé sur 3 000 naît avec la neurofibromatose de type 1. La neurofibromatose de type 2 touche environ une personne sur 25 000. Environ 25 % ont des complications, que ce soit le défigurement, la scoliose, des troubles d'apprentissage, une tumeur sur le nerf optique et des anomalies congénitales des os, une macrocéphalie ou de l'hypertension. En ce qui concerne la petite Gypsy, elle souffre d'une scoliose. Elle souffre également d'une tumeur sur le nerf optique. Mais pour le moment, la chimiothérapie a fait son effet, tout est sous contrôle. Et puis alors, il y a eu cette rencontre extraordinaire avec ces animaux qui lui a fait tant de bien. Alors, vous n'êtes peut-être sûrement pas encore des habitués des Paractualités, même nous ne sommes pas encore des habitués, puisque c'est la deuxième émission seulement. Mais nous aurons l'occasion du lundi au jeudi d'aller toujours, chaque journée, à la rencontre d'un organisme. Et aujourd'hui, je vous propose de faire connaissance avec l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. Et c'est Marc Saint-Onge qui doit être à l'autre bout du fil. Bonjour, Monsieur Saint-Onge.
Bonjour, Madame Sey.
Comment allez-vous?
Oh, je vais très bien avec le beau week-end dernier qu'on a passé. Oh,
fantastique, hein? Alors, vous allez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Vous allez d'abord nous dire qu'est-ce qu'exactement que l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées et vous allez nous parler de cette merveilleuse aventure.
Oui, l'Association québécoise du loisir pour personnes handicapées, dans le jargon, on dit AQLPH.
D'accord.
L'AQLPH, c'est une entité nationale qui agit beaucoup auprès de chacune des régions du Québec. Dans chacune des régions, il y a une entité régionale qu'on appelle Association régionale de loisirs personnes handicapées ou Unité régionale de services en fonction de chacune des régions. Ce qu'on a à faire, c'est de travailler à faire la promotion et le développement du loisir pour les personnes handicapées. Nous, on le fait sur une base nationale, mais on nourrit chacune de nos régions pour favoriser véritablement une intégration encore plus grande par le loisir des personnes handicapées.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine?
Oh, on a un événement qu'on appelle Destination Loisirs. Destination Loisirs, c'est un événement qui revient aux 2 ans et qui est assumé par une région haute. Cette année, nous étions dans Chaudière-Appalaches. C'est 560 personnes handicapées, adultes, se sont présentées pour vivre différentes activités de plein air, sportives, culturelles, touristiques, même gastronomique.
Oui.
Et là, nous étions en Beauce-Appalaches et véritablement, c'est une occasion drôlement intéressante de vivre plein d'aventures avec nos personnes handicapées, oui.
Alors, il y avait, vous le disiez, 500 personnes, évidemment beaucoup de personnes pour les encadrer. Ce sont des personnes qui sont bénévoles?
Oui, on avait plus de 200 bénévoles. On avait, je vous dirais, presque 300 bénévoles. Oui.
Et alors, un temps absolument inoui, hein?
Oui, ça c'est drôlement agréable encore plus, oui.
Alors, ça c'est une association qui regroupe, hein, vous l'avez dit, plusieurs centres, hein, c'est bien ça au Québec?
Oui, chaque région.
Ah, c'est
comme ça. Par exemple, à Destination Loisirs, en Chaudière-Appalaches, nous avions des délégations de chacune des régions. Des Îles-de-la-Madeleine à l'Abitibi, passant par l'Estrie, en allant dans les Laurentides. En fait, toutes les régions du Québec étaient présentes lors de cet événement-là.
Et qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir? Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres travaux, d'autres...
Bien sûr qu'on a un prochain Destination Loisirs à préparer qui aura lieu officiellement en 2018 à Baie-Comeau cette fois-ci. Mm-hmm. Donc, c'est quand même c'est 2 ans d'ouvrage pour faire un séjour de presque 4 jours.
C'est deux ans d'ouvrage?
Oui, oui, c'est 2 ans pour de planification, de recherche de partenaires, de commanditaires, de mise en place d'une programmation. Oui, c'est 2 ans d'ouvrage pour 4 jours, mais vous savez, les gens qui viennent, les personnes handicapées qui viennent, pendant ces 2 ans-là, elles ne sont pas inactives.
Non, j'imagine.
L'année précédente, ils en parlent parce que c'est ce qu'ils viennent de vivre, et l'autre année, ils préparent, et donc ça se poursuit comme ça constamment. D'autres projets, nous en avons beaucoup. Nous travaillons beaucoup au développement d'accompagnateurs pour des personnes handicapées. Et ça, c'est un programme. Nous donnons de la formation, faisons de la promotion. Vous savez, chaque année, on forme à peu près 2000 personnes, mais c'est pas suffisant. Donc, on développe présentement une formation à distance pour être en mesure de couvrir davantage de gens qui vont aider les personnes à aller se baigner, à aller
Bien
faire
sûr.
De la bicyclette. Ça, c'est un autre. On travaille beaucoup aussi avec l'Université du Québec à Trois-Rivières à faire de la recherche.
D'accord. Et pour vous joindre, si des gens en ce moment nous entendent et aimeraient suivre cette formation pour venir en aide?
Par Internet.
Par Internet?
C'est facile, oui, AQLPH.
Alors, AQLPH, simplement, et là, ils vont pouvoir suivre le chemin que vous indiquez.
Oui.
Écoutez, Marc Saint-On, je voudrais vous remercier. On ne se rend jamais assez compte à quel point il y a des centaines, des milliers de personnes qui s'investissent pour toutes sortes de causes. Alors, au nom de toutes les personnes qui en profitent, vraiment un gros, gros merci à vous et bon vent pour la suite des choses.
Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Say.
C'est
très, très, très agréable pour nous de collaborer avec vous.
Eh bien, au plaisir de vous réentendre.
Ça sera un plaisir réciproque. Bonjour,
au revoir,
madame.
Monsieur Saint-Ange.
Oui, bonjour.
Actualité nationale maintenant, des héros inspirants, oui, qui financent des chercheurs extraordinaires en participant à la grande randonnée Parkinson la fin de semaine prochaine, c'est-à-dire les 10 et 11 septembre, partout au Canada. Plus de 10 000 héros qui nous inspirent chausseront leurs espadrilles et marcheront à l'occasion de la 26e grande randonnée Parkinson. Cet événement communautaire inspirant rapproche les familles touchées par la maladie de Parkinson et représente la plus importante collecte de fonds pour la lutte contre la maladie de Parkinson au pays, affirme John Collins, co-directeur événements et partenariats de Parkinson Canada. Les fonds recueillis permettront en outre non seulement d'aider les personnes atteintes de la maladie grâce à des moyens d'éducation et de soutien, mais aussi d'investir au moyen de subventions et d'octrois et de bourses vers des recherches dans le cadre du Programme national de recherche de Parkinson Canada. Depuis 1981, le programme de recherche a investi plus de 26 millions de dollars dans plus de 500 projets et ont aidé plus de 500 chercheurs. En France, maintenant, 7 jeunes atteints de trisomie attaquent le CSA. Qu'est-ce que le CSA? C'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est ce qui correspond au CRTC chez nous. Et ils ont... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En mars 2014, à l'occasion de la Journée mondiale de la trisomie 21, il y a eu une campagne intitulée « Chère future maman », « Dear future mom », qui avait été lancée sur Internet, financée par une dizaine d'organismes en Europe, dont le principal volet était un clip de sensibilisation. Et à l'époque, plusieurs chaînes avaient accepté de le diffuser gracieusement, comme un canal en France qui s'appelle M6 ou encore Canal+. Des jeunes trisomiques de différents pays expliquaient à la future mère d'un bébé atteint de la maladie de ne pas s'inquiéter, que l'enfant pouvait être heureux, comme ils l'étaient eux-mêmes. Et à la suite de plusieurs plaintes, le CSA avait réagi en juin 2014 en demandant aux chaînes de veiller aux modalités de diffusion de messages susceptibles de porter à controverse, estimant que le clip ne pouvait être regardé comme un message d'intérêt général inséré au sein des écrans publicitaires. Pour les requérants, un groupe d'amis habitant la région parisienne, une telle décision est une forme de censure. Une atteinte à leur liberté d'expression, comme le souligne entre autres Corinne Bébin, la maman de l'un des jeunes trisomiques. Ces jeunes demandent que leur parole soit reconnue comme une parole de citoyen à part entière, sans qu'elle ait besoin d'être contextualisée ou encadrée, pour reprendre les termes de CSA. Pour cette dernière, leur démarche est très importante, car du respect de la liberté d'expression découle en fait tous les autres droits à vivre et à s'épanouir, comme n'importe qui de dire cette maman. Alors voilà, tout est en place pour les Jeux paralympiques de Rio. La flamme s'apprête à éclairer de nouveau le stade de Maracanã. On dit qu'1,5 million de billets ont été vendus pour ces Jeux paralympiques. On sait maintenant que c'est David Eng, qui portera le drapeau de la délégation canadienne. Ne manquez pas Rio 2016. Les Jeux continuent aujourd'hui à 15h et en reprise à 18h. J'avais aussi envie de vous faire une annonce du RAM parce qu'il y a en ce moment une exposition de la revue Le Nigog 1918 qui s'adresse notamment à des personnes malvoyantes ou handicapées. Et le mardi 27 décembre 2016, de 13h30 à 15h, vous pourriez vous rendre dans le hall de l'immeuble du Centre d'exposition de l'Université de Montréal, au pavillon de la Faculté de l'Aménagement. La salle, c'est 0056, je vous le redis. Le Centre d'exposition de l'Université de Montréal, pavillon de la Faculté de l'Aménagement, salle 0056, pour assister à cette expo pour valoriser les arts au Québec, la revue Le Nigog. Merci à Yves-Marie Lefebvre et à Nicole Trudeau pour la suggestion. C'est Clotilde Sey qui vous souhaite une belle journée. À demain, 11h30.